Alors, nous sommes ici au Théâtre des Poches de Hédé pour le festival Bonus, le festival 2025 de Bonus, festival de théâtre, rappelons-le, de théâtre de création, théâtre contemporain. Nous sommes en compagnie de Logan de Carvalho. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous venez de donner un spectacle qui s'intitule, alors j'ai du mal à le prononcer, mais Rakatakatak, de la compagnie, vous faites partie de la compagnie Les Grands Écarts, c'est bien ça?
Exactement, oui.
Un spectacle que vous avez donné avec vos compères et camarades de jeu, Laure Barida, Anthony Brerec et Géraldine Duplat, c'est bien ça?
C'est absolument ça, c'est ça la team.
C'est un spectacle qui dure 1h30, une performance théâtrale forte.
Oui, ça dure même 1h45 pour être précis. Et oui, c'est un spectacle, on va dire, engagé, surtout pour les comédiens. Alors, c'est un spectacle qui a été créé en salle, mais que là, on a adapté pour l'extérieur. Et le fait d'adapter et de jouer avec l'espace, c'était encore plus engageant pour les comédiens, mais c'était très marrant à faire aussi d'adapter dans ce lieu, dans les ruines du château d'Hédé, quoi. C'était super cool.
Effectivement, et qui correspond aussi, enfin, comment dire, au thème de ce spectacle, ou du moins, il y a des éléments du château que vous avez pu reprendre.
Ben oui, on voulait vraiment utiliser cette image. Alors, certes, c'est une Rakatakatak. Alors, le titre, c'est Rakatakatak, c'est le bruit de nos cœurs. Et c'est dans donc c'est une grande épopée de science-fiction, mais dans un monde qui va mal, quoi, et qui, du coup, les ruines, alors, pas un monde médiéval, mais les ruines du château, le côté ruine, marchait bien avec l'univers, quoi. Donc, on a essayé d'exploiter au maximum. Et puis on s'amusait à crapahuter dessus, etc. aussi pour encore plus développer l'épopée, le côté on arrive de partout, il y a du monde partout, dans certaines scènes où c'est intéressant que on est un peu submergé par une espèce de guerre sociale qui est en cours, et ça marchait bien avec le lieu, ouais.
Alors vous en parlez, l'univers, le contexte dans lequel se déploie voilà, le récit, les récits. C'est un univers futuriste, on peut le dire, de science-fiction qui peut se rapprocher, si on peut donner quelques références, à l'univers d'Alain Damasio, parmi d'autres, ouais. J'imagine, ça fait partie peut-être des influences.
Oui, ça fait partie des influences, et même on a fait un petit clin d'œil, parce que dans ce spectacle, il y a... il y a un dôme, enfin, je ne vais pas raconter ici l'histoire, mais en tout cas, il y a des endroits où c'est des zones, et ça, on a vraiment fait un petit clin d'œil à Damasio avec son livre « La zone du dehors ». On s'est inspiré aussi de lui, enfin, je me suis, moi, inspiré de lui sur comment il travaille le langage, et j'ai essayé de travailler, pas à sa manière, mais en tout cas, me dire, ah oui, c'est intéressant, des différences de langage entre chaque personnage, et ces différences de langage peuvent raconter l'origine d'un personnage. Et ce qui était super au théâtre, c'est que, ça, comme nous, quand on l'a créé en salle, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, il n'y a pas de projection. Donc on fait de la SF avec simplement des acteurs et des mots. Et ce langage, on va dire inventé, notamment d'un personnage, amène tout de suite la science-fiction avec rien. Enfin, c'est ça qui transporte dans une autre époque, dans un autre univers. Et donc ça, c'était hyper intéressant d'adapter pour le théâtre, je trouve.
Donc ça part aussi du langage qu'emprunte le personnage qui, du coup, tout un univers vient avec.
Oui, c'est ça. Disons que on a pensé l'univers, et après on s'est dit il y en a qui viennent de différents endroits, ils ont différentes origines sociales, on va dire, pour le dire vite, et c'était important de les marquer. Et là, en travaillant le texte, on le raconte aussi, mais c'était intéressant que ça s'incarne dans les mots, parce que c'est des mots qui font jeu, qui font théâtre, quoi. Et du coup, ça, même si ça peut être un peu perturbant au départ, on s'est rendu compte que ça a apporté beaucoup de richesse au personnage et donc au spectacle. Et en plus, aussi une certaine touche plus poétique, et dans toutes les problématiques qui sont traversées dans le spectacle, à savoir, c'est un spectacle qui parle de l'amour, du polyamour, de la déconstruction masculine, tout ça, cette espèce de néo-langage l'attrape par autre chose, quoi. Et ça fait penser les choses différemment, donc ça fait penser un petit peu aussi par la poésie et pas que par les idées. Enfin, il y avait un truc qui marchait bien un peu comme ça, quoi.
Il y a cet univers avec de l'action, il se passe beaucoup de choses, donc ce sont, on peut le dire, des rebelles qui peuvent faire penser à des luttes qu'on peut connaître aussi, qui sont en lutte face à la société du dôme, qui est une société qui impose son ordre au reste, on peut le dire comme ça.
Ouais, c'est très bien résumé. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, le contexte, l'histoire qu'on a inventée était un contexte pour un prétexte même plutôt, pardon, pour parler de ces questions d'amour. Et donc le prétexte qu'on a inventé, c'est donc, on a fait une chose assez simple, parce que l'idée c'était pas de faire une SF trop compliquée, parce qu'on allait parler d'autre chose. Donc en gros, on s'est dit, ben, les riches et les puissants sont enfermés dans ces dômes, enfin, on est en 2087, la montée des eaux fait que c'est de plus en plus difficile, le réchauffement climatique fait que c'est de plus en plus difficile de vivre en France, on va dire, et il y a les riches et les puissants qui sont enfermés à Paris, sous un dôme de verre qui leur permet de vivre bien, de respirer un air pur, etc. Autour, il y a une sorte de banlieue qu'on appelle le cercle, qui serait des travailleurs exploités par le dôme, qui essayent, avec leur travail, de rentrer dans le dôme. Et au-delà, il y a ce qu'on appelle du coup les zones. Et là, c'est aussi un hommage aux ZAD un petit peu qu'on a aujourd'hui, à ces luttes-là. Et oui, donc tout le spectacle, c'est une guerre sociale entre ces zones et ce dôme, parce qu'il y a une route qui a été prise, etc. Donc il y a une guerre sociale. Et tout le pari du spectacle, c'est de montrer c'est de faire un parallèle entre cette guerre sociale que vont vivre nos personnages, et en même temps ils vont devoir aussi changer leur rapport amoureux, leur façon de penser l'amour, l'amitié, pour pouvoir vaincre l'ennemi qui est le dôme, quoi. On fait un parallèle entre le combat interne et le grand combat face à l'ennemi, le système, quoi.
Oui, ça, c'est-à-dire que cette lutte contre le système dominant, on peut le dire patriarcal, passe aussi, comme vous le dites, par une déconstruction des normes que les personnages eux-mêmes peuvent incarner.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Exactement, et je pense que... Bah, d'ailleurs, il faut rappeler vraiment que... Bah, je pense que c'est essentiel d'avoir une lutte contre un système, mais au théâtre, c'est aussi intéressant de se poser des questions pour nous-mêmes. Et du coup, c'est de faire le parallèle entre les deux, c'est-à-dire entre comment, il y a un système oppressif qu'il faudrait abattre et changer, mais aussi, voilà, évidemment, on l'a intégré, et c'est normal, parce qu'on vit dans ce monde-là, etc. Et des fois, quand on commence à s'interroger et à lutter contre ce système, on déconstruit aussi des choses en nous. Et là, dans ce spectacle, ouais, vraiment, le dôme, il représente l'état patriarcal, ultra-capitaliste, vraiment des normes, quoi, des normes pour s'aimer. On a vraiment grossi les normes. Les normes amoureuses comme ça où c'est très dur notamment pour les femmes, etc. Et donc du coup on a bien accentué ça, et de l'autre côté on a donc dans nos personnages il y en a qui viennent de ce dôme et il y en a qui sont dans ces zones où à l'inverse on essaie d'inventer d'autres façons de s'aimer mais qui ont aussi leurs pièges, etc. Donc l'idée c'est de voir comment dans cette lutte sociale on allait creuser toutes ces questions là, quoi.
Ouais. Et donc vous abordez toutes les questions de la masculinité toxique et puis aussi des questions amoureuses et comment l'amour peut prendre de nouvelles formes, se transformer.
Oui, c'est ça, il y avait deux grands axes en fait. Donc sur la question des normes, c'est vraiment sur la question des normes amoureuses. Et en gros, pour le dire très vite, il y a une réflexion sur quel est l'héritage qu'on a de cet amour romantique où on vit à deux et on doit s'aimer toute la vie et qui est sans juger, mais se dire voilà d'où il vient et qu'est-ce qu'il met en place. Et comme il y a des nouvelles formes d'amour, là, des gens qui essaient de vivre ce qu'on appelle le polyamour, à plusieurs, avoir plusieurs relations en même temps, il y a plusieurs codes, et on voulait explorer un petit peu tout ça, et en tout cas se dire, questionner la norme, quoi. Pourquoi il y a une norme qui est plus facile qu'une autre ? C'était le premier axe. Et le deuxième, oui, qui est plus qui concerne plus mon personnage, c'est le personnage de quelqu'un qui est englué dans une masculinité, qui est très viriliste, quoi, mais il a des raisons de l'être, hein, c'est pas... Mais il va se rendre compte que, plaire à une femme qu'il a rencontrée, il va devoir essayer de se déconstruire, et ça permet une réflexion plus globale sur qu'est-ce que pareil impose le patriarcat aux hommes aussi, qui est pas forcément montrer que voilà, c'est pas forcément le patriarcat fait aussi à sa manière des injonctions aux hommes qui sont pas forcément bénéfiques pour eux. Et pareil, si on veut sortir du patriarcat, il faut se dire aussi que ça va nous faire du bien aussi à nous les hommes, quoi. C'était un peu ça. Bon, là, c'est dit un peu vite, mais et c'est facile de le dire comme ça, mais dans le spectacle, ça passe par la trajectoire d'un personnage, quoi. Voilà.
Ce spectacle, vous l'avez écrit, Logan de Carvalho, et vous l'avez aussi, on peut le dire, co-écrit avec vos partenaires de jeu, avec justement des personnages très marqués aussi les uns les autres. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot justement de la manière du processus d'écriture et de réalisation de cette pièce ?
Oui, c'est un spectacle qu'on a beaucoup répété. Au départ, on voulait vraiment faire un spectacle collectif d'impro, et quand on a commencé à réfléchir sur cette idée de dystopie, etc., de futur, et quand arrivait ce langage, c'était trop dur d'improviser avec ce langage, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour résumer, avec l'équipe, il y avait d'autres gens d'ailleurs à l'époque, on a travaillé avec Gabriel Le Chevalier, il y avait Léa Romani aussi, il y a des gens qui ont un petit peu participé, il y a aussi des gens à la dramaturgie qui m'ont aidé, Gabriel, Sophie Présumé, Camille Meyer, toute une équipe, comme ça on réfléchissait aux questions. Et donc c'est collectivement qu'on a réfléchi à cet univers, les personnages qu'on voulait interpréter, qui étaient les mieux, les questions qu'on voulait soulever. Et moi après, j'ai fait un mélange de quelques impros, d'écriture moi de mon côté, pour et c'est moi qui ai posé un petit peu la question, on va dire, du style, notamment l'avantage du langage de Camus, de mon personnage, etc., etc., et qui ait lissé un peu tout le texte pour que ce soit, pour qu'il y ait une cohérence après au final, quoi, et qu'on soit vraiment dans un texte écrit plus que dans un travail d'impro aussi, qui souvent des fois amène un peu autre chose, quoi. On voulait vraiment que ce soit une dramaturgie tenue, une histoire qui se raconte bien, avec un début, un milieu, une fin, une grande histoire, une grande épopée, quoi.
Oui, oui, c'est ça, c'est épique, comme on peut le dire, mais traversé par des réflexions. Ce n'est pas qu'une épopée, justement, il n'y a pas que de l'action, où c'est une action qui transforme aussi les personnages, tout simplement.
Oui, c'est ça, moi j'adore l'épisme au théâtre, j'adore, je suis grand fan de Shakespeare, quoi, et je trouve que Shakespeare... C'est dans ces textes, c'est vraiment des émotions énormes, c'est des trucs énormes, mais en même temps ça va toucher aussi une espèce d'intimité profonde. Enfin, en tout cas, je trouve que les grands enjeux permettent de creuser bien les questions, quoi. Et là, se poser la question de, je sais pas moi, dire à sa copine, tu penses un peu à toi, mais le dire au milieu d'une guerre en train de soigner quelque chose, et ben ça rehausse les enjeux et on entend les choses différemment. Parce qu'au départ, on avait commencé à réfléchir à ce spectacle et c'était deux couples dans une cuisine, quoi, qui essayaient de se poser des questions sur l'amour. Et franchement, c'était Hélène et les garçons. Enfin, je sais pas comment dire. Ça n'apportait pas de théâtralité. Là, la dystopie, l'épopée apporte de la théâtralité. Et je trouve, donne encore plus de saveur aux questions, aux thématiques et aux questions plus, on va dire, politiques, personnelles qui sont posées, quoi.
Les autres personnages, donc.
Moi, j'interprète Camo, ouais. Il y a le personnage de Trac, Eli et Driss. Et il y a aussi dans ce spectacle les comédiens qui jouent un peu, enfin qui des fois sortent et parlent pour eux-mêmes, etc. Mais voilà, les quatre personnages principaux, c'est ça. Camo, Driss, Eli et Trac.
Tous sont tous, eux, caractérisés. Il y a un leader plutôt intellectuel, mais moins dans l'action. Il y a celui qui est dans l'action, mais très viril, justement, et viriliste. Puis Eli.
Oui, Eli, elle vient du dôme, donc elle a subi, on va dire, un patriarcat acharné dans le dôme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc un truc très dur, et elle s'en est échappée. Et donc du coup, il y a ce côté-là, donc avoir vécu un patriarcat, enfin des violences, quoi. Et en même temps, dans ce dôme, elle a trouvé aussi l'amour unique, l'amour romantique. Elle représente aussi un peu ça, quoi, Ellie. Là où Driss, l'autre personnage féminin, représente, avec Trac, donc représente une tentative de polyamour, d'amour multiple, etc. Et sachant que Driss est aussi un petit peu leaduse, un peu guerrière comme ça, et Camo, c'est vraiment le guerrier viril qui veut se taper du dômeux et qui veut faire la révolution, mais qui a des trucs à régler sur sa construction masculine, quoi. Et qui va tomber amoureux, et ça, c'était pas prévu aussi, parce que d'où il vient, on tombe pas amoureux, l'amour c'est un luxe, quoi. Donc il y a tout ça aussi qui va lui arriver. L'idée c'est de tous ces personnages vont être chamboulés dans leur certitude, quoi. Ils vont avoir des certitudes qui vont être chamboulées par cette guerre sociale et ils vont devoir changer pour la mener à bien, quoi.
Très bien. Ce spectacle est amené à vous le jouer donc ici même à Bonus en 2025. Il est amené, j'imagine, à tourner dans différents lieux. Est-ce que vous pourriez nous en dire pour les auditeurs aussi qui seraient intéressés justement pour assister à ce spectacle, tout simplement?
Ouais, bien sûr. Alors, la compagnie est plutôt basée en Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Clermont-Ferrand, et on va jouer plutôt les prochaines dates. Ce sera en octobre au Théâtre de la Croix-Rousse, donc à Lyon. Après, on va jouer au Théâtre de Vénissieux en janvier. Et après, d'autres dates dans l'autre région, en Bretagne. Pas trop de pistes pour l'instant parce que c'était la première fois qu'on jouait, enfin que je dise pas de bêtises, oui. Enfin voilà, la compagnie, donc je suis plus basé en Auvergne-Rhône-Alpes, donc là on est très content de jouer ici. J'espère qu'on jouera plus en Bretagne, mais pour l'instant il n'y a pas de date sûre, voilà. Mais faut aller, y a le site de la compagnie, elle s'appelle Les Grands Écarts, et là il y a un agenda, vous pouvez aller voir les dates si ça vous intéresse pour voir. Et peut-être qu'il y aura des nouvelles dates dans la région, sait-on jamais.
Juste une question, la compagnie Les Grands Écarts, je n'ai pas posé la question au tout début, pourquoi?
Alors Les Grands Écarts, c'est dans la... j'en parle en disant, il y a plusieurs grands écarts dans ma vie. Le premier, c'est le grand écart de Jean-Claude Van Damme, parce que moi je viens de cette culture-là, je ne viens pas du théâtre, je suis moitié gitan par ma mère, mon père ouvrier portugais, donc je viens vraiment d'un milieu plus prolétaire, classe moyenne, quoi. Donc j'avais pas de culture théâtrale, donc il y a le premier grand écart, en tout cas, c'est celui-là. Le deuxième grand écart, c'est le grand écart que j'ai fait en faisant un transfuge, en allant dans un autre milieu, en quittant mon milieu d'origine pour aller dans un autre milieu. Ça a été un petit peu difficile avec un d'autres codes, et voilà. Et le troisième grand écart, c'est celui qui qui peuplent les... Enfin, c'est des grandes inégalités en France et dans le monde qui se creusent de plus en plus. Et voilà, et ce que j'aime bien... Donc, je parle un peu de ces trois grands écarts. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'avec mon travail, je tente de questionner tout ça. Et j'essaie de réduire l'écart, justement, entre divertir et subvertir. Donc, de faire un travail avec, donc, dans mon théâtre, j'aime bien raconter des histoires pour que les gens puissent s'identifier à des personnages, que ce soit accessible à ce niveau-là, tout en essayant d'apporter une petite touche un petit peu d'aller vers l'émancipation et de questions politiques, quoi. C'est un peu ça, grosso modo, mon travail. Et voilà. Mais surtout, j'aime bien les histoires.
Très bien. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans ce spectacle, Rakatakatak. C'est le bruit de nos cœurs, que vous venez de jouer, donc, à Bonus, organisé par le Théâtre de Poche de Hédé. Merci à vous, Logan de Carvalho.
Eh bien, merci bien.